Les despotes sont tous animés par la soif du pouvoir. Ils ont ce besoin insatiable de voir se courber devant eux ceux qui les entourent et, si possible, le peuple qu'ils oppriment. Mais ils ont un autre point commun. Ce sont des usurpateurs, car le seul qui est digne d'une telle vénération et qui mérite l'adoration est Dieu en Jésus-Christ. Je continue à lire dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Mais lorsque de nouveau Dieu introduit le premier-né dans la terre habitée, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Verset 6. Jésus-Christ est supérieur aux anges car il est le Fils de Dieu, mais aussi parce que ces derniers doivent l'adorer. L'auteur montre ainsi que la nouvelle alliance inaugurée par Jésus est plus élevée en dignité que celle de la loi transmise par les anges. En d'autres mots, le christianisme est supérieur au judaïsme. Que tous les anges de Dieu l'adorent est une citation d'un psaume et du livre du Deutéronome dans l'ancienne version grecque. Les anges ont toujours vénéré Jésus parce qu'il est la seconde personne de la Trinité, mais maintenant ils doivent le faire en tant comme Dieu, Dieu incarné. Cet ordre d'adorer Jésus est une preuve incontournable de sa divinité. Cependant, comme il est appelé premier-né, bien des sectes utilisent ce passage pour dire qu'il est un être créé. L'apôtre Paul aussi appelle Jésus le premier-né de toute la création. Le mot grec traduit par premier-né n'exprime pas un ordre chronologique dans le temps, mais une position d'autorité. C'est un titre qui veut dire « chef », celui qui précède les autres, qui leur est supérieur en dignité et en force. Par exemple, Isaac, fils d'Abraham, a eu des jumeaux. Ésaü est né le premier. Cependant, c'est son frère Jacob qui est appelé premier-né parce que c'est lui qui a reçu les promesses de Dieu. Jésus est le premier-né par excellence, le premier en tout, le souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul écrit « Ce fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. » Jésus est le premier des ressuscités, non pas parce que personne n'était revenu à la vie avant lui, mais dans le sens qu'il est de loin le plus grand et celui grâce à qui les croyants ressusciteront pour la vie éternelle. L'auteur dit que Dieu a de nouveau introduit le premier-né. Cette locution « de nouveau » signifie que Dieu présentera une seconde fois Jésus au monde, ce qui aura lieu lors de son retour en gloire. C'est à ce moment-là que l'ordre donné aux anges de l'adorer sera obéi, car alors les êtres célestes réaliseront pleinement l'étendue de la gloire de Jésus en tant comme Dieu. En effet, comme les anges sont des créatures, ils sont comme nous et ne comprennent pas toujours tout ce que Dieu fait. Je continue maintenant le texte. Au sujet des anges, Dieu dit « Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. » Verset 7. Jésus est supérieur aux anges du fait de sa nature, de son identité, qui il est. Les anges, eux, ne sont que des serviteurs dont Dieu se sert comme moyen de jugement. Ici, ils sont assimilés aux éléments naturels changeants et violents que sont le vent et la foudre quand ils accompagnent une tempête dévastatrice. Je continue. Mais au sujet du Fils, il dit, c'est-à-dire Dieu, « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » Verset 8. Cette affirmation capitale est tirée d'un psaume messianique, ainsi appelé parce qu'il prophétise la venue du Christ. Le contraste avec les anges ne pouvait pas être mieux établi. Dieu le Père parle à Dieu le Fils et lui dit, « Ton trône est éternel. » Jésus lui-même s'est proclamé Dieu. Par exemple, quand il a dit « Moi et le Père, nous sommes qu'un. » Alors, la réaction des Juifs ne s'est pas fait attendre, puisqu'il est écrit qu'ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Et ils ont expliqué leur geste disant « Parce que tu blasphèmes, car toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » L'apôtre Paul aussi enseigne très clairement que Jésus est Dieu fait homme. Par exemple, il dit de lui qu'il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Et encore que la bienheureuse espérance des croyants est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et l'apôtre Jean écrit « Nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. » Je continue le texte. « Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. » Verset 8. Quand il était sur terre, non seulement Jésus agissait toujours de façon juste, mais il aimait la justice. Il était pieux et saint et obéissait en tout à Dieu son Père. L'apôtre Jacques écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'il soit au ciel ou sur la terre, Dieu ne fait pas de caprice et ne change jamais. Parce que Jésus aime la justice, il a de la haine pour l'iniquité et l'injustice. Aimer ce qui est juste et haïr ce qui ne l'est pas sont deux attitudes qui fonctionnent ensemble comme le pouce et l'index. Je continue. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Verset 9. D'une certaine manière, les anges sont les collègues célestes du Christ. Cependant, souligne l'auteur, c'est Jésus qui est consacré roi et non pas un de ses messagers. L'Ancien Testament annonçait que Jésus recevrait l'onction qui le ferait roi. D'ailleurs, les mots « Messie » et « Christ » sont des translittérations de l'hébreu et du grec et veulent simplement dire « celui qui a été oint ou consacré ». Jésus a reçu l'onction royale quand il est monté au ciel après sa résurrection et son ascension. C'est à ce moment-là que Dieu le Père a fait siéger Dieu le Fils à sa droite et l'a placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Jésus est déjà roi, mais il n'a pas encore instauré son royaume, ce qu'il fera à la fin des temps. Je continue. Dieu dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enrouleras comme un vêtement. Tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Versets 10 à 12. Ce passage est une citation d'un psaume selon l'ancienne version grecque. Après avoir démontré que Jésus est supérieur aux anges à cause de ses titres, de l'adoration qu'il reçoit et de son identité, l'auteur va maintenant s'attarder sur son existence éternelle qui est une autre preuve de sa supériorité sur les anges. Si Jésus a tout créé, ce qui a déjà été dit, c'est qu'il ne fait pas partie de la création. C'est qu'il existait avant toute chose et qu'il n'a donc pas de commencement. Jésus a un pouvoir illimité et son existence éternelle contraste avec la précarité de la création. Même si celle-ci nous paraît inébranlable au point où certains disent que la matière est éternelle, elle est appelée à disparaître. L'univers s'écroulera alors comme un château de cartes. Comment fait une boule d'un vieux vêtement usagé dont on n'a plus besoin? Après avoir régné pendant 1000 ans ici-bas, le Seigneur détruira les cieux et la terre et en créera de nouveaux qui introduiront l'éternité future. Mais le règne du Messie continuera au-delà de ce cataclysme final, de l'ébranlement de la création présente. Plus loin dans l'Épître, l'auteur rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les astres, les hommes, tous les êtres vivants, ainsi que le monde végétal, naissent et meurent. Mais le Christ, lui, demeure toujours le même pour l'éternité. Je finis le chapitre premier. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds ». En effet, que sont les anges ? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Versets 13 et 14. Cette septième citation est tirée d'un psaume dit messianique que l'auteur utilisera régulièrement tout au long de l'épître. La position que Jésus occupe à la droite de la majesté divine porte à son apogée sa complète supériorité sur les anges. C'est de ce trône que Jésus assoira son autorité sur toute la création après avoir triomphé de ses ennemis, ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. L'apôtre Paul écrit « Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Cet événement aura lieu au moment de son retour en gloire. Je lis un passage. « De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. » Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Bien que les anges se tiennent à côté du trône de Dieu, ils sont envoyés ici et là en mission car leur rôle est de servir, tandis que la destinée de Jésus est de régner pour l'éternité, assis sur son trône, comme maître de l'univers. Je cite à nouveau l'apôtre Paul qui écrit « Puis viendra la fin lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. » Une fois dans l'éternité à venir, Jésus sera volontairement soumis au Père, ce qui était déjà le cas dans l'éternité passée. Cette soumission filiale est souvent mentionnée dans les Écritures parce que nous savons qu'elle définit la relation qui lie le Père et le Fils au sein de la Trinité. Les anges sont des esprits envoyés pour aider ceux qui vont hériter le salut. Ce salut a une signification très large car il englobe à la fois le don de la vie éternelle et un événement encore futur qui est la délivrance du peuple de Dieu de ses ennemis. Ce second sens est généralement celui du mot « salut » dans le livre des psaumes. En tout cas, ces paroles tombaient bien à propos parce que les destinataires de l'épître avaient subi des persécutions intenses. Étant sous pression, ils étaient tentés d'abandonner leur foi en Jésus-Christ. L'auteur leur rappelle donc ici que la victoire finale est déjà acquise et appartient au roi à venir et que les anges ont un ministère auprès de ceux qui recevront la vie éternelle et partageront le triomphe ultime du Messie. Dans les Écritures, on rencontre plusieurs fois des anges envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. On les voit protéger et délivrer les croyants de divers dangers. Dans ce court chapitre de 14 versets, la divinité de Jésus-Christ a été établie au moyen de ses noms divins puisqu'il est appelé Fils, Seigneur et Dieu. Par ses œuvres aussi puisqu'il crée, soutient, gouverne, rachète et purge le péché. Et enfin par sa nature, puisqu'il est éternel, tout-puissant, immuable et adoré des anges. Sa supériorité sur tous les êtres célestes a donc été parfaitement établie. Toutes ces vérités sont importantes pour la suite du texte qui continue avec le chapitre 2 que je commence à lire. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Verset 1. L'auteur fait une première pause dans son exposé doctrinal pour adresser à ses lecteurs la première d'une série de 5 avertissements longs et pressants. Celui-ci est le plus court de tous, mais néanmoins solennel. Puisqu'il en est ainsi, ou en d'autres mots, parce que Jésus-Christ est plus élevé que tout, qu'il est Dieu et Créateur, parce qu'il a fait l'expiation des péchés et que lui seul est digne d'adoration, ces lecteurs ne doivent pas se laisser entraîner à la dérive. Un comportement facile puisqu'il n'y a qu'à se laisser aller au fil de l'eau, pour ainsi dire. Une paraphrase de ce premier verset serait « Nous devons d'autant plus ancrer notre vie dans les choses qui nous ont été enseignées de peur que le navire de la vie n'aille à la dérive, loin du port du salut pour aller se perdre à jamais. » Il y a déjà longtemps de cela, un accident spectaculaire avait fait la une des journaux. Un homme s'était endormi dans son petit bateau situé à quelques kilomètres en amont des chutes du Niagara. Un peu de vent, un amarrage à la va-vite, et le voilà entraîné par le courant. Il se réveille, mais trop tard. Il est devant les chutes et il a péri, englouti. La négligence tue. Bien des gens ne sont pas contre le Christ et trouvent même que c'était quelqu'un de très bien. Mais, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont jamais pris de décision ferme à son égard. Le rejeter ainsi, c'est mépriser son âme. Étant donné la majesté de sa personne et la gloire du royaume des cieux qu'il offre de partager avec les siens, il est absolument insensé de refuser le salut qu'il offre. Je continue le texte. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Verset 2. D'après les textes de l'Ancien Testament, quand l'Éternel a donné les 10 commandements à Moïse, il était accompagné de myriades d'anges. Sous le régime de la loi, toute transgression était sanctionnée et pouvait entraîner un châtiment sévère comme la peine capitale. Un jour, un prédicateur a commencé son sermon en disant « J'ai une question à poser à laquelle ni vous ni moi ne pouvons répondre, et Dieu non plus. » Puis il a lu la suite du texte qui dit « Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ?» Verset 3. Dans cet épître, l'auteur va donner 5 avertissements, comme je l'ai dit. Le premier s'adresse à ceux qui, ayant entendu l'annonce du salut en Jésus-Christ, négligent de l'accepter comme leur sauveur. Ils sont semblables à quelqu'un en train de se noyer à qui on jette une bouée de sauvetage, mais qui refuse de s'y accrocher. Au premier siècle, bon nombre de Juifs avaient entendu la bonne nouvelle de Jésus et beaucoup d'entre eux étaient intéressés. Mais la plupart ont continué leur bonhomme de chemin dans le judaïsme traditionnel. Les sanctions prévues par la loi ne se comparent pas à la sévérité de celles qui seront administrées à ceux qui auront négligé la grâce que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Que faut-il faire pour ne pas avoir le salut? Rien. Il suffit de ne rien faire, car par nature, nous sommes dans un état de perdition. C'est bien là tout le drame. La condamnation éternelle consiste simplement à rester indifférent à l'égard de la personne de Jésus-Christ. C'est plus que tragique, car seuls ceux qui placent leur foi exclusive en lui recevront la vie éternelle. Dans le domaine spirituel, la neutralité n'existe pas, car Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Et l'apôtre Jean écrit « Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Au niveau spirituel, la simple négligence ou le désintérêt a des conséquences éternelles dramatiques. Et chercher refuge dans les pratiques d'une religion ne résout pas le problème de fond de l'être humain qui est sous la condamnation de Dieu. Que ce soit le judaïsme, l'islam, un des grands courants du christianisme ou autre chose, ce ne sont pas des dogmes ou des rites qui peuvent changer quoi que ce soit à ma destinée éternelle. Pour cette raison, l'auteur, qui est très soucieux de l'état des âmes de ses auditeurs, leur lance un appel pressant et demande à ce qu'ils y répondent positivement, en prenant la décision ferme de suivre Jésus-Christ. Je continue le texte. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même, Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Versets 3 et 4. L'auteur exhorte les Juifs à croire en Jésus-Christ pour trois raisons. À cause de sa nature, qui il est, à cause de la certitude du jugement pour ceux qui le rejettent, et enfin parce que la véracité de sa parole a été confirmée de diverses manières. À ses contemporains, qui ne manquaient pas de scepticisme à son égard, Jésus a dit, et je paraphrase, que même s'ils refusaient de croire en ses paroles, au moins qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que Dieu était en lui. Par ses miracles, Jésus a prouvé qui il était et par conséquent la crédibilité de ses paroles. Ensuite, les apôtres et surtout Paul ont eu le don de guérison et d'autres encore qui leur venaient du Saint-Esprit afin de prouver qu'ils parlaient avec l'autorité de Dieu et que leur enseignement était authentique. Suite à cette démonstration de la supériorité de Jésus-Christ sur toute créature, vous devez admettre que si malgré tout vous le rejetez, vous porterez seul la responsabilité de votre décision.